George Sand, Mouni Robin. L'autre soir à l'opéra, j'étais placé entre un bourgeois de Paris qui disait d'un air profond au second acte du Freischütz « Faut-il que ces Allemands soient simples pour croire de pareilles sornettes ?» Et un bon Allemand qui s'écriait avec indignation en levant les yeux et les bras au ciel, c'est-à-dire au plafond, « Ces Français sont trop sceptiques, ils ne conçoivent rien au merveilleux. » Le bourgeois, scandalisé, reprenait, s'adressant à sa femme, « Vraiment, ce hibou qui roule des yeux et bat des ailes est indigne de la scène française !» L'Allemand, outragé, reprenait de son côté, et s'adressant aux étoiles, c'est-à-dire au quinquet, « Ce hibou bat des ailes à contre-mesure, et ses yeux regardent de travers. Il aurait besoin d'être soumis à l'opération du strabisme. » Un public allemand ne souffrirait pas une pareille négligence dans la mise en scène. Les Allemands n'ont pas de goût, disait le bourgeois parisien. Les Français n'ont pas de conscience, disait le spectateur allemand. Et à qui en ont ces messieurs, demandai-je dans l'entracte à un spectateur cosmopolite qui se trouvait derrière moi et qui, par parenthèse, est fort de mes amis. Comment se fait-il que la mauvaise tenue de ce hibou les occupe plus que l'esprit du drame si admirablement rendu par la musique ? Mais oh, voilà, le monde n'est pas content de certaines parties de l'exécution, me répondit le cosmopolite, et s'en prend au décor. C'est bien de l'indulgence ou de la retenue de sa part. Quant au bourgeois, il va à l'opéra pour voir le spectacle, et il écoute la musique avec les yeux. Eh bien, pour ne parler que du spectacle, repris-je, que vous en semble. Vous qui avez vu représenter ce chef-d'œuvre sur les premières scènes de l'Europe, trouvez-vous qu'il soit mal monté, comme on dit, sur la nôtre ? Ben, je suis pas du tout mécontent de ce sabbat, répondit-il. Quoique j'y trouve trop peu le diablerie. Les apparitions du premier plan sont trop négligées, trop rares, et ne sont pas combinées à point avec les paroles du drame et avec l'intention du compositeur. Je n'ai pas vu le sanglier dont le rugissement sauvage est si bien exprimé dans la musique. S'il a passé, c'est si vite que je ne l'ai point aperçu. À la place de l'apparition d'Agathe, je n'ai vu qu'un revenant quelconque. Ses squelettes et ses lutins sont beaucoup plus laids qu'il ne faut, et ne produisent pas du tout l'effet que produisent en Allemagne les chiens et les oiseaux innombrables qui s'élancent sur la scène. Les aboiements et le bruit des ailes sont pourtant identiques dans l'orchestre, et c'est traiter un peu lestement la pensée de Weber que de lui retirer ses manifestations nécessaires. Voilà de quoi l'Allemand se plaint. Il a raison. Mais ce qui pour moi fait compensation, c'est la beauté de ce paysage, la profondeur de ses toiles, la transparence de ses brouillards, ce je ne sais quoi d'artiste, de poétique et d'élevé qui préside à la composition du tableau. Sur aucune autre scène, on aurait mis autant de goût et d'intelligence à peindre le site en lui-même. Cette cascade dont le bruit sec et froid vous pénètre et vous glace, ces rideaux de brume qui s'éclaircissent et s'épaississent tour à tour, cela est vu et senti grandement par le décorateur. C'est que le Français a plus que l'Allemand le sentiment de la vraie beauté dans la nature. Témoins les grands paysagistes que la France seule a produits depuis plusieurs années. Il y a une véritable renaissance de ce côté-là. L'Allemand voit les choses autrement. Il veut embellir la nature. Elle ne suffit pas à son imagination, il la peuple de fantômes, il donne aux objets réels eux-mêmes des formes fantastiques. La scène allemande essaie minutieusement de réaliser cette pensée du poète. Et je crois qu'ici on a bien fait de ne pas le tenter. Il eût fallu sacrifier les effets de vérité à des effets de fantaisie. Et peut-être eût-on perdu ces beaux effets, sans atteindre au bizarre effrayant des effets contraires. En résumé, on peut dire que chaque peuple a son fantastique, et qu'il serait plus que difficile de concilier les deux. Ah, si vous parlez de Paris et de Vienne, répondis-je, vous accorde que ces différences sont tranchées. Mais si vous allez au cœur de notre peuple, si vous pénétrez dans nos provinces, au fond de nos campagnes, vous y trouverez des traditions si semblables à celles de l'Allemagne et de l'Écosse que vous reconnaîtrez bien que ces poèmes populaires ont une source commune. Les poètes et les artistes des diverses nations en inspirent plus ou moins. L'Angleterre a Shakespeare et Byron, l'Allemagne Goethe, la Pologne Mickiewicz, l'Écosse aussi et Walter Scott. Nous n'avons rien de semblable. Nos superstitions, nos pointues d'illustres interprètes et n'en auront pas. L'esprit voltairien leur a porté le dernier coup, et notre moderne école fantastique n'a été qu'une pâle imitation de celle de nos voisins. Elle n'a rien produit de durable. C'est une affaire de mode. Les Français des hautes classes et celui des classes moyennes rient des contes de revenants et défendent aux valets d'en trouver la cervelle des enfants. L'Allemand éclairé n'y croit pas davantage, mais il n'en rit pas, il les aime. Personne à cet égard n'a mieux peint l'esprit allemand que Henry Heine. Quant à nous, continuai-je, nous avons lu les contes d'Hoffmann avec un plaisir extrême. Mais l'impression que nous en avons reçue n'a pas modifié du tout nos habitudes de logique, notre impérieux besoin de la recherche des causes. Et par conséquent, cette raison un peu froide et railleuse qui scandalise l'allemand. J'avoue que rien n'est plus risible que l'esprit fort qui veut tout appliquer sans rien savoir. Mais il y a une autre faiblesse qui consiste à s'interdire toute explication, bien qu'on ne manque pas de science et qu'il n'en est pas moins ridicule. Voilà, je crois, la différence entre les deux nations. Le français, par amour du vrai, nie ou méconnaît toute vérité nouvelle. L'allemand, par amour du fabuleux, refuse de constater la vérité qui contrarie ses chimères. Mais, je vous le répète, descendez au cœur du peuple, vous trouverez dans les grandes villes une population intelligente et active qui, bien qu'initiée à la raison et à la logique des hautes classes, se souvient encore des traditions de son enfance et des contes de sa nourrice villageoise. Et si vous voulez aller au village, sans vous éloigner beaucoup de Paris, vous trouverez la fable du Freischütz aussi vivante dans les imaginations rustiques que vous venez de le voir sur le théâtre. Bon, je serais curieux de m'en assurer, dit mon cosmopolite. Eh bien, repris-je, allez un peu causer avec les gardes forestiers et les bûcherons de la forêt de Fontainebleau. Ils vous raconteront qu'ils ont entendu, dans les nuits brumeuses de l'automne, passer la chasse fantastique du grand veneur. Il en est même qui ont rencontré cette chasse terrible, ces biches épouvantées fuyant devant la meute bruyante, et ces grands lévriers dont la race est perdue, et qui devancent la course des feux follets, et les chasseurs avec leurs troupeaux funèbres, et le grand veneur en personne avec son habit rouge, son panache flottant et son cheval noir comme la nuit, piaffant, reniflant et faisant fumer la bruyère sous ses pieds, Autour de ces arbres séculaires qui forment au plus obscur de la forêt le carrefour du grand veneur. J'ai souvent passé sous ces beaux arbres, répondit mon interlocuteur, lorsqu'ils étaient couverts de soleil et de verdure, et j'aurais jamais cru que les morts osassent venir prendre leurs ébats aussi près de la capitale. Eh bien, si vous voulez me promettre de ne pas vous moquer de moi, lui dis-je, je vais vous dire comme quoi j'ai incité tout près de croire à une fable conforme à bien des égards au poème du Freischütz. Mais je vous en prie, me dit-il, je vous promets tout ce que vous voudrez. Eh bien, hein, continuai-je, franchissez en imagination une distance de 80 lieues. Nous voici au centre de la France, dans un vallon vert et frais, au bord de l'Indre, au bas d'un coteau ombragé de beaux noyers qui s'appelle la côte d'Urmont, et qui domine un paysage tout à fait doux à l'œil et à la pensée. Ce sont d'étroites prairies bordées de saules, d'aunes, de frênes et de peupliers. Quelques chaumières éparses, l'Indre, ruisseau profond et silencieux, qui se déroule comme une couleuvre endormie dans l'herbe, et que les arbres pressent sur chaque côté et ensevelissent mystérieusement sur leur ombre immobile. De grandes vaches ruminant d'un air grave, des poulains bondissant autour de leur mère, quelques meuniers cheminant derrière un sac sur un cheval maigre et chantant pour adoucir l'ennui du chemin sombre et pierreux, quelques moulins échelonnés sur la rivière avec les nappes de leurs écluses bouillonnantes et leurs jolis ponts rustiques que vous ne franchirez peut-être pas sans un peu d'émotion, car ils ne sont rien moins que solides et commodes, quelques vieilles filant sa quenouille accouprie derrière un ruisseau, tandis que son troupeau doit maraude à la hâte dans le pré du voisin. Voilà les seuls accidents de ce tableau rustique. Je ne saurais vous dire où en est le charme, et pourtant vous en seriez pénétré, surtout si, par une nuit de printemps, un peu avant les fauchailles, vous traversiez ces sentiers de la prairie où l'herbe, semée de mille fleurs, vous monte jusqu'aux genoux, où le buisson exhale les parfums de l'aubépine, et où le taureau mugit d'une voix désolée. Par une nuit de la fin d'automne, votre promenade serait moins agréable, mais plus romantique. Vous marcheriez dans les prés humides sur une grande nappe de brume blanche comme l'argent. Il faudrait vous méfier des fossés grossis par les débordements de quelques bras de rivière, et dissimulé par les joncs et les iris. Vous en seriez averti par l'interruption subite des consonances des grenouilles dont votre approche troublerait le concert nocturne. Et si par hasard vous voyiez passer à vos côtés, dans le brouillard, une grande ombre blanche avec un bruit de chaîne, il ne faudrait pas vous flatter trop vite que ce fût un spectre, car ce pourrait bien être la jument blanche de quelque fermier, traînant les fers dont ses pieds de devant sont entravés. Le plus mystérieux et le plus pittoresque de ces moulins cachés sous le feuillage et abrités par le versant rapide du coteau d'Urmont. Eh mon Dieu! Si quelques rustiques habitants de notre vallée noire étaient là pour m'entendre prononcer ce nom, vous le verriez dresser l'oreille comme un cheval ombrageux. Le plus joli, dis-je, de ces moulins, celui qui fut jadis le plus prospère et qui désormais ne l'est plus, c'est le moulin Blanchet. Hélas, il n'y a pas toujours de l'eau maintenant dans les chaleurs de l'été. Et pourtant, jamais il n'en a manqué du temps que Mouni Robin en était le meunier. Le moulin qui est au-dessus et celui de l'emballe qui est au-dessous en remontant et en suivant le même cours d'eau, en manquaient souvent. Les meuniers maudissaient la saison. Ils tourmentaient en vain leurs écluses, ils épuisaient jusque la dernière goutte de leur réservoir, sans pouvoir contenter les clients, et pendant ce temps-là, la roue du moulin Blanchet tournait triomphante et chassait à grand bruit des flots d'écume. Mounier Robin satisfaisait toutes ses pratiques et voyait, comme de juste, venir à lui toutes celles de ses confrères malheureux. Et c'est que Mounier Robin était sorcier. C'est qu'il s'était donné à Georgeon. Qu'est-ce que Georgeon? Qu'est-ce que Samiel? Ben, Georgeon est un diable malin. Je n'ai jamais pu réussir à le voir, quoique j'aie fait mon possible. Mais tant d'autres l'ont vu que je serais révoqué en doute son existence et son intervention dans les affaires de nos paysans. C'est lui qui donne de l'eau au moulin, de l'herbe au pré, de l'embonpoint aux bestiaux, et surtout du gibier aux chasseurs, car il est particulièrement l'esprit de la chasse. Il trône dans les guérets, il rôde dans les buissons, il contrarie les chasseurs maladroits. Il gambade la nuit dans les prés avec les poulains, et quand il parcourt la forêt, il est toujours accompagné d'au moins 50 loups, lors même qu'il n'y en a pas un seul dans le pays. Lorsqu'on le surprend dans cet équipage, on s'assemble de tous les hameaux environnants pour faire une battue. Mais, quoi qu'on fasse, les loups deviennent invisibles et le malin se moque des chasseurs. C'est que les favoris de Georgeon ne se mêlent jamais de ces battues. Ils ont à discrétion des perdrix et des lièvres qu'à condition de respecter les loups et de les aider à se soustraire à la persécution. « Mais à quoi bon battre le bois et se donner tant de peine ?» nous dira-t-on. « Nous trouvons pas un seul loup aujourd'hui. C'est un tel qui les a serrés dans sa grange. Allez-y, vous en trouvez là plus de 100 à la crèche. » Ah, combien de loups, Mounier Robin, ainsi hébergés, soustraits à nos recherches. C'est grâce à lui, sans doute, que nous n'avons jamais vu un seul à 4 lieues à la ronde. Et, sous ce rapport, c'était un sorcier bien utile aux moutons du pays. Mais un sorcier est toujours réputé méchant et nuisible. Et Mounier Robin fut toujours vu de mauvais œil. C'était pourtant la plus douce et la plus obligeante créature du monde. Lorsque je l'ai connu, il était encore jeune. C'était un homme assez grand, mince et d'une apparence délicate, quoique d'une force rare. Je me souviens qu'un jour, voulant traverser son pré pour éviter de faire un long détour, je me trouvais empêché par un large fossé rempli d'eau et de vases. Tout à coup, je le vis sortir de derrière un saule. « Vous passerez pas là, mon enfant, me dit-il. C'est impossible. » Cela ne me paraissait pas impossible, mais quand j'essayais de poser les pieds sur les pierres aiguës et glissantes, qui, jetées çà et là dans le fossé, formaient une sorte de sentier, je trouvais la chose plus difficile que je ne l'avais pensé. J'étais avec un enfant plus jeune que moi qui me dit « N'essayez pas de passer, Mouni ne veut pas. C'est un endroit ensorcelé par lui, et quoi qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau, s'il le veut, nous allons nous y noyer. » Comme nous étions en plein jour et que je n'ai jamais eu peur à cette heure-là, je me moquais de cet avertissement et j'appelais Mouni. « Viens ici, lui dis-je, et c'était un brave sorcier. Fais-moi passer par le meilleur chemin puisque tu le connais. » Il fut très satisfait de cette déférence. « Je savais bien, me dit-il d'un air triomphant, que vous ne passeriez pas là sans moi. Et venant à moi, quoiqu'il fût très pâle et parut exténué par une fièvre qui le rongeait depuis plus d'un an, il me prit à la lettre entre ses mains, m'enleva en l'air comme il eût fait un lièvre, et marchant sur les pierres jalonnées avec une parfaite sécurité malgré ses gros sabots, il me passa à l'autre bord sans broncher. « Et toi, dit-il à l'autre, suis-moi, ne crains rien !» L'autre passa et ne trouva pas la moindre difficulté. Le sort était levé. Bien depuis ce jour où j'avais alors 17 ans, Mouni Robin me témoigna toujours la plus grande amitié. Si j'insiste sur la physionomie de ce personnage, ce n'est pas que je l'ai jamais cru sorcier, mais qu'il avait en lui bien certainement quelque chose d'extraordinaire, sinon comme intelligence, du moins comme faculté mystérieuse. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'entends par là. Il était, quant à l'extérieur, au langage et aux manières, bien différent de tous les autres paysans, quoiqu'il eût toujours vécu dans les mêmes conditions d'ignorance et d'apathie. Il s'exprimait avec une certaine distinction, quoiqu'avec une sorte de cynisme rabelaisien qui ne manquait pas de sel. Il avait la voix douce et l'accent agréable, son humeur était enjouée et ses allures familières, sans être insolentes. Bien opposé aux habitudes de servilité craintive de ses pareils, qui ne rencontreront jamais un chapeau à haute forme sans soulever leur chapeau plat à grand bord, je ne crois pas qu'il ait dit à personne « monsieur » ou « madame », ni qu'il ait jamais porté la main à son bonnet pour saluer. Si le bourgeois lui plaisait, il l'appelait « mon ami », sinon il l'appelait « gagneux »,« dandon » ou « massicot » tout court. Il ne possédait pas par esprit d'insurrection. Vraiment, il ne s'occupait point de politique, ne lisait pas de journaux, et pour cause. La chasse l'absorbait tout entier. Et j'ai toujours pensé que, comme chacun de nous a une certaine analogie de caractère, d'instinct et même de physionomie avec un animal quelconque, Lavater et Granville l'ont assez prouvé, il y avait dans Mouni une grande tendance à rapprocher le type du chien de chasse de l'espèce humaine. Il en avait l'instinct, l'intelligence, l'attachement, la douceur confiante et ce sens mystérieux qui met le chien sur la piste du gibier. Ceci mérite explication. Quelques années après mon aventure du fossé, si aventure il y a, mon frère, étant venu se fixer dans le pays, fut pris d'une grande passion pour la chasse. C'était dans les commencements une passion malheureuse, car dans nos vallons coupés de lait et semés de pacages buissonneux, le gibier a tant de retraite que la chasse est fort difficile. Il ne suffit pas de savoir tirer juste, il faut connaître les habitudes du gibier. Combattre ses tactiques par une tactique d'observation et d'expérience, développer en soi la ruse, la présence d'esprit, la patience, n'avoir pas de distraction, savoir tirer au jugé parmi les broussailles, ou viser si juste et si vite qu'un lièvre à la course apparaissant pour une ou deux secondes dans une éclaircie de quelques pieds d'ouverture, il tombe là, sans quoi il ira se remiser dans des fourrés impénétrables. La perdrix au champ n'est qu'une chasse d'enfant, mais le lièvre au pacage est une chasse de maître. Il faut y être bien rompu, bien retors, et le plus habile chasseur de plaine y perdra son latin et sa poudre, à moins que, pour abréger de longues années d'apprentissage, il ne fasse intervenir Georgeon dans ses affaires. « C'est encore là le plus sûr, nous disait notre ami le garde champêtre. Quant à moi, je n'ai pas la science qu'il faut pour ça. Et puis, ça commence bien, mais ça finit toujours mal avec le camarade. Voilà, mon urbain, qui vous fera tuer du gibier tant que vous voudrez. Et Dieu sait qu'il n'y a pas de plus fin braconnier en Europe et même en France. Mais, voyez-vous, il a après lui un vilain monsieur. Qu'il y prenne garde, un beau jour il tombera son maître et Georgeon finira par le trouver. Au sortir d'un régiment de hussards, on n'est pas superstitieux. Mon frère, voulant passer maître à la chasse, se fit l'écolier de Mougny, et moi, qui ai toujours aimé abattre les champs et les prés, à fumer à l'ombre parfumée d'un noyer ou à lire un roman le long de la rivière, je me mis de la partie sans songer à mal. D'abord, mes enfants, nous dit mon Romain, il faut se mettre en chasse à l'heure de la grand-messe, si ça ne vous fait pas trop de peine. À la bonne heure, pensais-je, voilà qui sent le sorcier. Nous partîmes pendant que la cloche du village appelait les fidèles à l'église et nous garantissait au moins contre des concurrents incommodes. Oh, c'est trop tôt, nous dit Mouni Robin. Laissez entrer tout le monde. Avant que le premier coup de fusil soit tiré, il ne faut rencontrer ni fille ni femme. Malgré cette précaution, et quoique pour complaire aux sorciers dont les pratiques nous divertissaient, nous lisions, faisions de grands détours pour éviter de nous croiser dans notre marche avec quelques paysans attardés se rendant à l'église, mais trouvions tout à coup face à face avec une bergère qui gardait ses moutons à l'angle d'une prairie. « Oh, mais comme elle ne marche pas, dit mon frère, cela ne peut pas s'appeler une rencontre. »« Non, c'est égal, dit Mouni, c'est bien mauvais, et la chance est contre nous. Nous allons être 2 heures sans sentir rien tuer. » 2 heures se passèrent en effet sans qu'on eût passions à battre une seule pièce. C'était à qui de nous tirerait le plus mal, et Mouni n'était pas le moindre maladroit. Mais puisque tu es sorcier, lui dis-je, au lieu de conjurer les mauvaises rencontres, tu devrais avoir des balles qui portent juste. On dit que Georgeon en donne à ses amis. Mais est-ce que vous croyez à Georgeon, vous autres? Dit-il en haussant les épaules. Pour moi, je regarde ce qu'on en dit comme autant de contes qu'on fait faire aux enfants. Mais pourquoi évites-tu les rencontres? Pourquoi chasses-tu pendant la messe? Pourquoi crois-tu aux mauvaises chances? Vois-tu, mon petit, reprit-il, tu parles sans savoir. La chasse est une chose à laquelle personne ne connaît rien. Il y a des chances, voilà tout ce que je peux t'en dire. T'ai-je averti que nous aurions de mauvaises heures? Elles sont passées, alors regarde au soleil, eh bien, voilà une pie sur un arbre. Je vais la tirer et la chance sera pour nous. S'il la manquait, nous ferions aussi bien de rentrer. Nous manquerions à tout coup. Il abattit la pie. Oh, ne la ramassez pas, n'y touchez pas, nous dit-il. Car c'est beau qu'à lever un sort. Ah, ça, la bergère était donc sorcière? Lui demandai-je. Non, dit-il, il n'y a ni sorcier ni sorcière, mais elle avait une mauvaise influence. C'est pas sa faute. L'influence est détruite, à présent nous allons trouver 2 perdrix à la Croix-Blanche. Comment, à une demi-lieue d'ici? Dit mon frère. Pardine, c'est bien, répliqua Mouni. Mâle et femelle. Vous pouvez rencontrer qui vous voudrez à présent et tirer comme vous pourrez. Vous tuerez ces perdrix-là, je vous les donne. Nous les trouvâmes à la place qu'il avait désignée, et mon frère les tua. Et maintenant, dit-il, nous ne verrons rien d'ici à une demi-heure. Regardez à vos montres. La demi-heure écoulée. Je veux tuer un lièvre, dit-il. Il faut que je le tue, ce diable de lièvre. Le lièvre passa une telle distance que mon frère cria. On tirait pas, c'est inutile, il est hors de portée. Le coup partit. Il a beau être sorcier, dit mon frère, il n'abattra pas celui-là, c'est tout à fait impossible. Cherche, Rajot, dit Mouni à son chien. Oui, oui, cherche, dit mon frère en riant. Rajot partit comme un trait. C'était un bien bel épagneul blanc avec deux taches jaunes. Il passa la rivière à la nage, car Mouni avait tiré par-dessus. Il flaira les buissons, poussa un cri de joie, fit vaillamment le plongeon dans les épines et rapporta le lièvre criblé du gros plomb de Mouni. Ma foi, je commençais à croire que Georgeon s'était mis de la partie. Il nous fit plusieurs autres prédictions qui se réalisèrent comme les précédentes. Au retour, notre chien Médor tomba en arrêt sur une compagnie de perdrix. « Oh, laissez-moi là-dessus, tirez !» dit Mouni en retenant mon frère. « Il nous en faut au moins 6. » Il en a bâti 7. « Bon, c'est trop facile !» disait-il tranquillement en les ramassant. « Mais s'il n'est pas sorcier ou diable, disais-je à mon frère en revenant, il a du moins quelques pratiques secrètes que je ne devine pas. » Bon, répondit mon frère, il a tant étudié les allures du gibier qu'il en connaît toutes les remises et toutes les habitudes. Les animaux libres ont une vie très régulière, et il suffit de suivre une de leurs journées pour savoir l'emploi de tous leurs autres jours. Oui, mais le lièvre atteint hors de portée. Ben, c'est que son fusil porte extraordinairement loin comparativement au nôtre. Oui, mais les 7 perdrix. Oh, c'est qu'il a tiré au plus serré du bataillon. Oh, je ne lui conteste pas d'être plus adroit que nous. Mais ses prédictions. Oh, le hasard aide les gens heureux et le bonheur est aux insolents. Mais avec cela, on expliquerait toutes choses et pourtant, il me semble que tout cela n'explique rien. Attends à demain ou à la semaine prochaine pour voir comment notre sorcier gouvernera le hasard. Tu verras qu'il tombera pas toujours aussi jusqu'aujourd'hui et que son Georgeon lui fera fiasco plus d'une fois. Nous nous mîmes à chasser presque tous les jours avec Mouni. Nous y trouvions un plaisir extrême. Mon frère, parce qu'il lui faisait rencontrer beaucoup de gibier, moi, parce qu'il nous conduisait dans les sites les plus charmants et les plus ignorés de la vallée noire. Il continuait son système de conjuration contre les influences pernicieuses et ses prédictions. Je dois dire, pour la vérité du fait, que celles-ci ne se réalisèrent pas toujours parfaitement, mais qu'elles se réalisèrent 25 fois sur 30. Et cela dura non 4 jours, mais 4 ans et demi. Pendant lesquels Mouni Romain prit sur nous comme chasseur, et peut-être aussi un peu comme sorcier, un ascendant que peu à peu nous cessâmes de combattre. En étudiant avec lui les mœurs du gibier, nous pûmes bientôt nous convaincre que ses habitudes n'étaient pas aussi régulièrement tracées que nous l'avions cru d'abord. Plus nous examinions notre guide, plus nous remarquions en lui une sorte de divination à l'endroit de la chasse, dont il semblait parfois travailler et tourmenté comme d'une souffrance, comme d'une maladie. Bon, il n'était pas charlatan le moins du monde. Il n'employait aucune manigance cabalistique. Et s'il croyait à Georgeon, il s'en cachait bien, n'en parlait pas volontiers. Un phénomène qui s'opérait en Mouni Robin nous mit, quoique vaguement, sur la voie de ce que je crois aujourd'hui devoir appeler de la vérité. Un jour, nous avions apparemment toutes les mauvaises influences contre nous. Nous fîmes 4 ou 5 mortelles lieues de pays sans rien rencontrer. Il semblait que tout le gibier ait été frappé d'une plaie d'Égypte, car nous ne pûmes pas seulement viser une alouette. Rajot était d'une humeur de dogue, et Médor nous regardait d'un air mélancolique. 2 ou 3 fois, pour tromper leur ennui, ils tombèrent en arrêt sur des hérissons et sur des couleuvres. Mais Mouni nous interdisait de tirer sur ces vils bestioles, prétendant que cela gâtait la main. Au dire des paysans, ils protégeaient, par malice de sorcier, les mauvaises bêtes vouées au diable. Car Georgeon livre aux chasseurs qu'il protège le plus noble gibier, à condition qu'il respectera les animaux immondes dont il fait sa société dans les nuits de sabbat. Les chouettes, les chats sauvages, les crapauds, les serpents, les renards, les loutes, les chauves-souris, les loups, etc. Ce jour-là, Mouni Robin était triste, accablé, plus pâle qu'à l'ordinaire, et nonchalant, comme il l'était, pas souvent. « Écoutez, nous dit-il, il faut changer tout ça. Je vais me retirer. »« Qu'appelles-tu te retirer ?» lui dis-je. « Quitter la chasse ?»« Non, mon fils, répondit-il. Je vais me retirer dans ce taillis. Vous allez suivre par en bas et vous n'entrerez pas sous bois. Autrement, tout ira mal. Nous étions habitués à ces façons de parler. Nous suivîmes la lisière du bois, comptant qu'il allait en faire sortir quelques lièvres de sa connaissance. Mais il n'en sortit rien, et au bout d'un quart d'heure, nous le vîmes revenir à nous, dans un état singulier de trouble et d'agitation. Il tremblait de tous ses membres et semblait brisé de fatigue, de souffrance ou d'effroi. Sa blouse était souillée de terre et ses cheveux remplis de mousse, comme s'il eût été terrassé dans une lutte violente. Son front était ruisselant de sueur et cependant ses dents claquaient de froid. « Eh bien, qu'est-ce donc ? » s'écria mon frère. « Est-ce que tu viens de te colter avec l'autorité ?» Nous n'avions entendu aucun bruit, mais comme nous chassions la plupart du temps sans port d'armes et hors de saison, en véritable apprenti braconnier, nous pouvions faire la rencontre de quelques gendarmes, gardes champêtres ou de tout autre fonctionnaire public, et nous nous apprêtions à prendre le large lorsque Mouni nous arrêta. « Non, rien, rien, » nous dit-il d'une voix éteinte, « n'est rien. » Et faisant un grand effort, il se secoua comme un homme qui chasse une vision, essuya son front, empoigna son fusil d'une main qui tremblait encore, et s'écria, comme s'il eût été inspiré, « Tout va bien, mes amis, nous allons faire une bonne chasse. Il y aura de beaux coups de fusil. » Puis, reprenant son air doux et narquois, « Vous, dit-il à mon frère, vous ne rentrerez pas sans plumes à la maison. Et quant à toi, ajouta-t-il en me regardant, tu verras pour la première fois de ta vie tomber 2 lièvres du même coup. « Et qui fera ce beau coup ? » demandai-je. « Oh, quelqu'un qui s'appelle Mouni Robin et qui se moque de bien des choses, » répondit-il en secouant la tête. « Et quand cela arrivera-t-il » demanda mon frère. « Tout de suite, » répondit-il. Un lièvre parut, il l'ajusta et l'abattit. « Cette fois, il n'y en a qu'un, » dit mon frère. « Entrez dans le buisson, » répondit Mouni. « S'il n'y en a pas 2, je veux que celui-là soit le dernier que je tuerai de ma vie. » Nous cherchâmes dans le buisson. Il y avait un second lièvre, dont il avait cassé les reins du même coup, qui avait traversé la cervelle du premier. « Mais comment diable avais-tu fait pour le voir ?» lui dis-je. « Tu as de meilleurs yeux que nous. » Des yeux, répondit-il, mettez telle lunette que vous voudrez, et si vous voyez ce que je vois, je vous fais cadeau de mon chien et de ma femme. Allons, allons. Vous, dit-il à mon frère, armez votre fusil. La plume n'est pas loin. Au bout de 100 pas, nous trouvâmes une bande de canards sauvages. Mouni s'abstint de tirer. Mon frère en tira plusieurs et revint souper avec son carnier plein de canards, de bécasses et de pluviers. « Quand je vous ai dit que vous ne rentreriez pas sans plume, » observa Mouni. « Je savais bien que vous ne tueriez pas de perdrix. C'est égal, vous ne devez pas être mécontent. Pour ma peine, vous allez me promettre, si nous rencontrons ma femme, de ne pas lui dire un mot de ce que nous avons fait à la chasse. » Il nous avait fait tant de fois recommander le secret à cet égard-là que nous n'avions garde d'y manquer. Il ne cachait point à sa femme le gibier qu'il avait tué, mais de quelle façon il l'avait abattu, avec quel plomb, à quelle heure, en quel endroit et après quelles paroles. Voilà les mystères qu'il fallait lui taire. Chaque jour, le servant de ne pas révéler. Il ne chassait guère qu'avec nous, et c'était une grande marque de confiance qu'il nous donnait. Mais tu te crois donc sorcier que tu caches ainsi ton savoir-faire, lui disions-nous. Non, répondit-il, mais il faut pas qu'une femme sache rien des affaires de la chasse. Cela porte malheur. Cet homme offrait dans ses idées, au premier abord, un singulier assemblage de crédulité et de scepticisme. Il ne croyait vraiment pas au diable, ni au mauvais esprit, mais à la fatalité, ou plutôt à des influences pernicieuses ou bienfaisantes, qu'aucune science, je crois, n'a jamais reconnues, faute peut-être de les avoir observées. Il eût été bien important que nous fussions assez éclairés pour examiner ou reconnaître les propriétés qu'il attribuait à certains corps, à certaines émanations, à certains contacts. Quand on l'examinait de près, on voyait bien qu'il n'était pas superstitieux le moins du monde, et qu'il agissait en vertu d'une théorie physique vraie ou fausse. Les résultats étaient la plupart du temps si extraordinaires que, selon toute apparence, il ne se trompait pas souvent dans l'application. Je ne crois pas qu'il ait cherché jamais à remonter aux causes, mais il avait certainement une science d'instinct ou d'observation. D'où la tenait-il? Nous n'avons jamais pu le savoir, et j'ignore s'il le savait lui-même. À cet égard, ses réponses étaient évasives, et comme il était plus fin que nous n'en tirâmes jamais rien. Toutes les fois que la chasse était mauvaise, il se retirait, c'était son expression, c'est-à-dire qu'il se cachait à nos regards, soit dans un buisson, soit dans un fossé, soit dans quelque masure déserte, et qu'après y être resté un certain temps, il en sortait, pâle, anéanti, frissonnant, respirant et marchant à peine, mais nous annonçant des rencontres et des victoires superbes qui se réalisaient toujours et quelquefois avec une exactitude de détail qui tenait du prodige. Un jour, nous résolûmes de l'observer pour voir s'il avait quelque pratique secrète d'une superstition grossière ou s'il préparait quelque jonglerie. Nous feignîmes de nous éloigner et nous fîmes un détour pour le surprendre. Nous parvînmes jusqu'à lui sous le taillis avec des précautions tout à fait inutiles, car l'état où nous le trouvâmes ne lui permettait pas de nous voir et de nous entendre. Il était étendu à terre et paraissait en proie à une angoisse inexplicable. Il se tordait les bras, faisait craquer ses jointures, bondissait sur le dos comme une carpe, respirait avec effort, la face pâmée, les yeux éteints. Nous crûmes qu'il était épileptique. Mais les choses n'en vinrent pas là. Il n'eut ni écume à la bouche, ni rugissement, ni atonie. Ce fut une simple attaque de nerfs, une agitation convulsive, un étouffement pénible, quelque chose de plus douloureux qu'effrayant à voir, et dont il se tira au moins de 5 minutes. Nous le vîmes ensuite se lever peu à peu, s'étendre, se calmer, se ravoir, comme on dit, et rester là encore quelques minutes, comme partagé entre une grande fatigue et une sorte de bien-être. Quand il quitta la place pour nous chercher, nous allâmes le rejoindre par un assez long détour afin de ne pas l'inquiéter, et il dit à mon frère en l'abordant: aujourd'hui, si je m'en mêle pas, vous ne tuerez rien. En effet, mon frère tira plus de 12 coups de fusil, dont pas un seul ne porta. Mais je suis donc le dernier des maladroits, s'écria-t-il en frappant la terre de la crosse de son arme. Oh, ça, maître Mouni, tâchez de me désensorceler. Mais c'est bien aise, mon ami, répondit Mouni de sa voix douce et agréable. Donnez-moi cela. De quel côté voulez-vous que je charge? Il chargea le côté gauche qu'on lui indiqua, et mon frère chargea l'autre. Avec celui-ci, dit Mouni en montant celui qu'il venait de charger, vous ne marquerez pas. Et avec l'autre, dit mon frère, avec l'autre, vous ne toucherez pas, répondit-il. Un vanneau passa, mon frère la battit, puis une grive, et il la manqua. Le coup chargé par Mouni avait porté. L'autre avait cassé une branche 10 pieds trop haut. Et maintenant, changez le côté droit, dit mon frère. Il est possible que par là le fusil soit meilleur. À votre aise, dit Mouni Robin. Il chargea le droit, et mon frère le gauche. Avec le droit, il toucha, avec le gauche, il ne toucha point. L'épreuve fut répétée toujours en sens contraire 5 ou 6 fois de suite, et le résultat fut toujours celui que Mouni avait annoncé. À la 7e, « Cette fois, dit-il, vous allez tuer avec votre charge et manquer avec la mienne. Allez, je suis fatigué. » Le fait suivit et confirma la prédiction. De pareilles expériences ne pouvaient pas être attribuées obstinément au hasard et à l'adresse. Mouni était parfois lui-même d'une maladresse incroyable, et il n'en paraissait ni surpris, ni humilié. « Bon, je sentais cela, disait-il. Il n'émettait pas d'autre amour-propre. Il était beau chasseur, comme on est beau joueur. » Nous accordions à Mouni d'être plus exercé, plus habile que nous, mais cela ne suffisait pas pour expliquer l'effet de divination véritable dont nous étions témoins tous les jours. Il me serait difficile de traduire nettement l'impression que ces faits produisaient sur nous à la longue. Il n'y a pas de fait si remarquable auquel on ne s'accoutume. Et pourtant, rien au monde n'est aussi difficile à vérifier et à constater qu'un fait de ce genre. Les continuelles et consciencieuses recherches de certains partisans du magnétisme, qui ne sont ni des fous ni des charlatans, ont bien assez prouvé que la simple conquête d'un fait patent et incontestable peut être l'œuvre de toute une vie. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que ce fait à peine conquis entre danser dans les esprits simples et droits, sans y produire ni étonnement ni inquiétude. Je ne sais pas si les savants s'y soumettent ainsi facilement, j'en doute. Leur orgueil a trop à faire pour s'accommoder des découvertes qu'ils bouleversent leurs théories. Quant à moi, qui n'avais aucune théorie à perdre, ni aucune chance à contrarier, j'ai été témoin de ces faits après lesquels le doute n'est plus possible. J'avais vu Mouni Robin exercer la faculté de seconde vue ou d'odorat portée jusqu'à la puissance canine, sans être bien convaincu qu'il y eût dans l'humanité des instincts aussi exceptionnels et outrepassant les bornes connues de nos facultés communes. 10 ans plus tard, je jouais aux cartes avec une somnambule dont la vue semblait tout à fait interceptée, et quoiqu'elle fît des prodiges, je me repentis en sortant d'avoir signé le procès-verbal. Il me vint des méfiances que je n'avais pas eues tout de suite. Je soupçonnais ma mère d'être de connivence avec elle pour duper le public, et je me demandais, avec une partie des opposants, quoique le bandeau fût impénétrable, si les contorsions qu'elle avait faites n'avaient pas un peu décollé l'appareil en dessous. Mais il y a 2 mois, j'ai vu chez un médecin que je sais être un homme de conscience et de vertu, et que de nombreuses supercheries ont rendu plus méfiants que nous tous, une autre somnambule qui, malgré plusieurs bandeaux impénétrables et privée de l'assistance de tout compère, exerça la faculté de la vue avec autant de netteté que je puis le faire avec d'excellents yeux et une clarté splendide. Cette fois, je poussai mon examen du fait jusqu'à la minutie, jusqu'à l'insolence, et je pourrais citer des détails qui ne laisseraient aucune prise aux soupçons de jonglerie. Je suis donc persuadé, je suis donc sûr aujourd'hui, autant qu'il est donné à l'homme de l'être d'un fait d'expérience personnelle attentive et lucide, que certains individus de notre espèce peuvent voir, et partant, pourquoi pas entendre, pourquoi pas odorer, dans des conditions où l'exercice des sens serait interdit à la généralité des autres individus. Eh bien, depuis ce temps, j'admire ma tranquillité. Il m'avait semblé qu'un tel fait me paraîtrait surnaturel, qu'il bouleverserait ma raison, qu'il me rendrait accessible à toutes les billevesées du monde, et je craignais d'arriver à la certitude que je cherchais. Et voilà qu'il se trouve que rien de pareil ne s'est opéré en moi. Je ne crois à aucune puissance surnaturelle, et je veux dire, avec tous ceux qui ont assisté à l'épreuve, qu'il y a sans doute, dans la nature, bien d'autres secrets non encore révélés, qui de longtemps ne seront pas explicables. Que dis-je de longtemps? Ne seront-ils pas toujours? Un fait constaté entraîne-t-il autre chose qu'une analyse des effets et des causes saisissables? Et n'y a-t-il pas, au-dessus de ces causes saisissables, une cause première qui est le secret même de la divinité? Qui nous dira comment le blé pousse et comment l'homme est conçu? Nous voyons bien germer et pointer un brin d'herbe dans le sein d'une graine. Nous voyons bien un enfant naître du flanc de sa mère. Mais la puissance de la vie, mais la pénétrance, perpénétration et le renouvellement de l'être, mais ces propriétés impérissables de l'esprit et de la matière, d'où viennent-elles? Quand on aura analysé l'œil de l'extatique, quand on aura trouvé dans ses nerfs ou dans sa rétine ou dans son cerveau une faculté particulière de voir à travers les obstacles en dépit des distances, que saura-t-on? Ce qu'on savait il y a 3000 ans, c'est qu'il y a des pitis, des devins, des augures, des visionnaires et des prophètes qui n'exploitent pas tous la crédulité des hommes et qui sont vraiment mus par une puissance intime et incontestable. On ne dira plus « C'est Apollon, c'est Isis, c'est Jéhovah, c'est Magog qui parle. » Les savants diront « C'est un fait naturel qui se produit. » Mais en vérité, à qui donc remonte la puissance dont ce fait émane? Ne serait-ce pas jusqu'à Dieu, aussi bien que tous les faits de la vie dans l'univers? Ce n'est donc pas dans une étude matérielle de la cause première qu'il faut chercher le progrès. Ce progrès ne sera jamais qu'une confirmation de plus en plus éclatante et universelle de la foi en Dieu, conquête primitive, durable, éternellement modifiable et perfectible de l'humanité. Mais ce qu'il appartient à la science humaine d'analyser et d'expliquer par les moyens qui lui sont propres, c'est d'une part le mécanisme des causes naturelles procédant des causes divines, et de l'autre le mécanisme des effets naturels procédant des unes et des autres. La science fera ce progrès quand les savants auront vu un assez grand nombre de faits nouveaux et incontestables pour rougir de leur scepticisme, comme ils rougiraient aujourd'hui de leur naïveté, si naïfs ils pouvaient être. Quand le rideau fut tombé, vous me devez la fin de l'histoire de Mounir Robin Gaspard et de Georges Samiel, me dit-il en passant son bras sous le mien. Nous irons nous assurer à Tortoni et vous me l'achèverez. Oh, je le saurai, répondis-je, la raconter dans un lieu livré à des influences aussi contraires à l'effet qu'elle doit produire. Et je crois, pour continuer le système de mon braconnier extatique, qu'au contact de toutes ces élégances parisiennes, je perdrai la mémoire des jours de ma jeunesse campagnarde. Venez avec moi en plein air, la lune donne sur les toits, et je réussirai peut-être à sortir de mon explication. Mais aujourd'hui, je pense, dit le cosmopolite, qui commençait à en avoir assez. Il me semble que j'ai compris, tout en dormant. Vous attribuez à votre homme une sorte de seconde vue qui s'exerçait à la chasse et qui se produirait chez moi, lui, au moyen de certaines crises nerveuses. Vous pouviez dire cela en deux mots. Je ne suis pas tellement sceptique que j'accepte cette donnée préférablement à bien d'autres. Eh bien, repris-je, puisque ma tâche à cet égard est terminée, la fin de l'histoire viendra bien vite. Le garde champêtre et toutes les têtes fortes de l'endroit nous avaient bien prédit que cela finirait mal et que Georgeon tuerait son compère Mouni. Un beau soir, comme la lune brillait au ciel, Mouni alla, comme de coutume, lever la pelle de son moulin, mais au moment où l'eau s'élançait et mettait la roue en mouvement, Georgeon, qui était mécontent de lui, sans doute parce qu'il ne le trouvait pas assez méfiant et méchant pour un homme voué au diable, le poussa par derrière, l'enfonça dans l'eau la tête la première et le fit passer sous la roue de son moulin, d'où il sortit, suffoqué, brisé et frappé à mort. On le trouva de l'autre côté du moulin, échoué sur l'herbe du rivage, disloqué, immobile et prêt d'expirer. Il passa pourtant 6 mois dans son lit, où il finit par succomber aux lésions profondes que la roue du moulin avait faites à la poitrine et à la moelle épinière. « On te l'avait bien prédit, mon pauvre homme, lui disait sa femme à son lit de mort, que Georgeon finirait par te tourer. « Bien pas de Georgeon qui tienne, répondait le moribond. « Je ne saurai jamais comment ça m'est arrivé, pas plus, ajouta-t-il, que j'ai su le reste. » Le fait est que l'accident tragique du pauvre Mouni n'a jamais été bien expliqué. Il faut être non pas maladroit, mais bien déterminé au suicide pour passer ainsi par la pelle de nos moulins. Il vous suffirait de voir celui de Mouni pour vous convaincre qu'il faut s'y lancer ou y être précipité avec une grande force, la tête en avant, pour ne pas pouvoir se retenir aux ais du pont, quelle que soit la force de l'eau. Tout s'expliquerait si Mouni eût été ivre, mais il ne s'enivra pas, je crois, une seule fois dans sa vie. Il avait horreur du bruit et de l'odeur des tavernes, et quand il s'y asseyait un instant, il en sortait en disant « Oh, la tête me sonne !» Je n'ai pas vu un autre paysan aussi délicatement organisé qu'il l'était à certains égards. « Et n'avait-il pas un ennemi, un héritier, un rival ?» me dit mon auditeur complaisant. « Hélas, il en avait plus d'un, » répondis-je. Jeanne Mouny était jolie comme un ange, et d'une délicatesse d'organisation aussi exceptionnelle que celle de son mari. Elle était petite, fluette et blanche comme les narcisses de son pré, vivant toujours à l'ombre des grands arbres qui croissent dans cette région fraîche et touffue. Elle avait préservé son cou et ses bras des morsures du soleil, et quand elle était vêtue le dimanche d'une robe blanche et d'un tablier à fleurs, elle ressemblait plus à une villageoise d'opéra qu'à une meunière du Berry. Pour rester dans le vrai, ce n'était ni l'une ni l'autre, mais c'était mieux. C'était quelque chose de fin, de propre et de charmant, avec une voix douce et des manières gracieuses. Il semblerait que ce rapport d'organisation eût dû le rendre précieux l'un à l'autre. J'ai la douleur de vous avouer que Madame Mouny préférait à son époux un gros garçon de moulin, noir, rauque et crépu, auquel Mouny ne témoigna jamais la moindre jalousie. Ceci est encore une particularité du caractère de notre ami. Il n'avait aucun préjugé sauvage sur l'honneur conjugal. Il ne se croyait obligé ni de haïr, ni d'injurier, ni de battre, ni d'étrangler sa femme parce qu'elle lui était infidèle. Il nous parla souvent de sa position prétendue ridicule, et la manière dont il l'envisageait ne l'était nullement. « Jeanne est beaucoup plus jeune que moi, disait-il, elle est jolie, et je l'ai toujours négligée. Que voulez-vous ? J'aime de tout mon cœur, mais j'aime encore mieux la chasse. La chasse, voyez-vous, mes enfants, celui qui s'y adonne ne peut pas s'adonner à autre chose. Si vous êtes amoureux, si vous êtes jaloux, faites-moi cadeau de vos fusils et de vos chiens, car vous ne serez jamais que de mauvais chasseurs. » Si bien qu'en raisonnant avec cet esprit de justice, il eut pour sa femme les procédés qu'un grand seigneur du temps Louis XV aurait eu pour la sienne. Il n'est donc pas présumable qu'il ait été assassiné par son rival. Cela n'est venu à l'esprit de personne. Jeanne ne pouvait que perdre à la mort de son mari. Mais que pour alors, que présumez-vous de cette mort? Oh, je présume que Mouny était somnambule ou cataleptique d'une certaine façon, et qu'il a été surpris par la crise extatique au moment où il levait la pétale de son moulin. Quoi qu'il en soit, sa fin était mystérieuse comme sa vie, et il n'est aucun de nos paysans qui ne l'attribue encore aujourd'hui à une lutte avec l'esprit malin, le diable chasseur, le terrible Jean-Jean de la vallée noire. Je vous disais que notre peuple des campagnes possède son fanatique tout comme un autre, et que les Allemands n'ont pas le monopole. Oh, je pourrais vous conter d'après eux des histoires encore plus effrayantes, mais il est trop tard pour cette nuit. Bonsoir.